Bonjour, chers auditeurs. Dans la continuité de notre émission Connaissance du diocèse, je me trouve actuellement avec le père Gérard de Roda qui va nous parler de la pastorale liturgique et sacramentelle. Bonjour, père de Roda.
Bonjour.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots?
Bien voilà, je suis Gérard de Roda, je suis prêtre depuis 1989. J'ai eu différentes missions, ministères sur Dax, à Saint-Vincent-de-Xaintes, ensuite en aumônerie scolaire, ce qu'on appelait à l'époque Cendrillon et Saint-Joseph, et puis après j'étais curé autour de Saint-Martin-de-Hinx, je suis revenu à Dax et maintenant je suis curé à Saint-Vincent-de-Tyros depuis 2 ans.
Est-ce que c'est une grosse paroisse?
Alors Saint-Vincent de Tyros, donc ça fait partie de la paroisse Notre-Dame du Salut en Marraine, une paroisse qui compte 18 000 habitants, 5 communes, et il y a une grande vitalité, c'est très, très sympathique.
Vous êtes responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle. Pouvez-vous nous donner un petit peu un aperçu en quoi consiste votre travail?
Oui, donc en 2001, à l'époque c'était Mgr Sarabert, m'avait demandé d'être responsable diocésain du service de pastoral, liturgique et sacramentel. Pour moi c'était un domaine que je ne connaissais pas tellement et dans lequel je me suis vite investi tant j'étais passionné par les questions abordées. Alors, comment expliquer ce service? Donc, il y a le mot pastoral. La pastorale, c'est tout ce qui concerne l'annonce de Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a le mot liturgique. La liturgie, c'est tout ce qui est la prière, ce qui nous met en relation avec Dieu. Et il y a le mot sacramentel, donc les 7 sacrements, qui sont ces signes visibles de l'action de Dieu, de l'amour de Dieu. Alors, un service de pastoral liturgique et sacramentel a tout simplement pour mission sur un diocèse de favoriser la mise en œuvre des célébrations pour aider justement à la prière, mais aussi de porter le souci de la préparation, par exemple, des baptêmes, des mariages, d'accompagner les familles à l'heure du deuil. Vous voyez, ce sont autant de lieux où finalement les chrétiens sont invités à participer et à rencontrer le Seigneur. Et ce qui est pour moi très important, c'est la question qui nous habite toujours dans ce que nous entreprenons, comment favorisons-nous cette rencontre avec le Seigneur et comment nous mettons en œuvre les choses.
Est-ce que vous intervenez avec les autres prêtres? Comment ça se passe, le lien entre votre service et les différentes paroisses?
Alors, ben oui, moi je fonctionne, enfin je veux dire, chaque année, le service diocésain, l'équipe, propose un certain nombre de formations. Alors, je voudrais quand même préciser ceci, le service diocésain de pastoral liturgique et sacramentel est constitué de ce que nous appelons 4 commissions. Il y a la commission pastoral liturgique et sacrement, il y a la commission musique liturgique, il y a la commission art sacré, et il y a la commission fleurir en liturgie. Alors chacune de ces commissions a son propre fonctionnement et donc propose ses propres formations. Et en fait, mon rôle à moi, c'est de coordonner les choses et c'est vrai que j'interviens très souvent. Depuis 2001, notre service s'est beaucoup investi et s'investit, je pense, chaque année dans la formation des équipes funérailles. On a mené plusieurs chantiers autour de des équipes de préparation de baptême, pour le mariage aussi. On a travaillé aussi, on a conduit des réflexions autour de la place des sacrements dans la vie paroissiale, l'accompagnement, les préparations. Aujourd'hui, il y a justement tout un travail qui se fait sur l'accompagnement vers les sacrements, c'est quelque chose de très intéressant. Autrement dit, il ne s'agit pas de préparer uniquement un événement, une première communion ou un baptême, mais il s'agit de réfléchir comment tout au long de ce temps d'accompagnement nous allons marquer des étapes pour donner à voir que l'on avance vers ce sacrement. Alors ça, c'est une chose très importante. Alors, c'est vrai, comment est-ce que les prêtres, mais heureusement, il n'y a pas que les prêtres dans la vie du diocèse et dans la pastorale, mais comment ensuite les laïcs aussi entendent ce qu'on peut vouloir enseigner. Par bonheur, je travaille bien avec le service de la catéchèse et je sais que j'ai eu à intervenir déjà plusieurs fois dans le cadre de sessions organisées par Madame de Vatrigan, mais j'accompagne aussi les services du catéchuménat pour la relecture de différentes célébrations, pour la préparation de documents qu'ils sont en train de faire. Je veux dire, nous avons plusieurs lieux pour se rencontrer, pour travailler. Mais il n'empêche que ce qui est très important, c'est ensuite, quand les gens repartent chez eux, après avoir suivi une journée de formation, puissent mettre un petit peu en œuvre dans leur paroisse différentes choses. Alors, c'est marrant, quelque chose que je n'ai pas du tout souligné. Nous avons fait aussi tout un travail autour de la formation des équipes liturgiques. Vous savez, comment choisir des chants, comment écrire une prière universelle, l'art de la lecture. Enfin, ce sont plein de petites questions qui sont très fortes. J'avais aussi travaillé en son temps avec les responsables d'aumônerie de l'enseignement public et catholique par rapport à la profession de foi, par rapport à la mise en œuvre de la confirmation. Enfin voilà, c'était un chantier qui est très vaste. Enfin, le terrain de la pastorale liturgique et sacramentelle est très très ouvert, très très ouvert.
Est-ce qu'il peut arriver, par exemple, que leur curé leur impose quelque chose ?
Comment dire ? Moi, je ne suis pas le censeur qui va vérifier ce qui se passe dans chaque paroisse. J'ai confiance à mes confrères prêtres, j'ai confiance dans mes frères laïcs. Je crois que toute la difficulté en liturgie, et notamment dans la préparation des messes, c'est les questions qu'il faut toujours se poser. Qu'est-ce que nous célébrons ou qui nous célébrons aujourd'hui ? Quel est le sens de ce dimanche, par exemple ? Mais se poser aussi des questions, qui sera présent dans cette célébration ? Qu'est-ce qu'on va essayer de dynamiser ? Qu'est-ce qu'on va essayer de donner à voir ? Alors, je m'aperçois que, bon, c'est vrai que je peux entendre que des prêtres disent non à ce que préparent des équipes liturgiques. Bon, ça je l'entends très bien. Mais des fois, je me pose aussi la question comment les équipes liturgiques qui préparent une messe 8 ou 10 jours ou 15 jours avant le dimanche prévu peuvent coller avec l'actualité qui se vit. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Je répète, la liturgie doit toujours favoriser la rencontre avec le Seigneur. Qu'est-ce que la liturgie ? La liturgie, c'est une double action. C'est l'action de Dieu qui vient à notre rencontre et c'est l'action du peuple qui va à la rencontre de Dieu. Et cette rencontre va se vivre dans le cadre d'une célébration, un temps de prière. D'où l'importance de se dire qu'est-ce qu'on met en œuvre pour favoriser la rencontre avec le Seigneur, que ce soit dans le choix de chants, dans la façon dont on va lire des textes, dans la préparation d'intentions de prière universelle, mais que ce soit aussi, et c'est très important, dans l'aménagement d'un espace. Vous savez, quand on célèbre une messe dans une église où les gens sont aux quatre coins dispersés, qu'est-ce que nous donnons à voir de ce que nous appelons l'église et de la communion fraternelle. Donc voilà, je crois que tout le monde peut se retrouver là-dedans et se dire « Ah, comment est-ce que je participe ? Qu'est-ce que je donne à voir de l'Église quand je vais, par exemple, à la messe ?»
Depuis Vatican II, qu'est-ce que vous pensez qui a changé, évolué ?
Alors, qu'est-ce qui a changé, évolué ? Je ne sais pas. Je ne vais surtout pas dire que c'était pas bien avant, que c'est mieux maintenant, ou que c'était mieux avant, que c'est pas bien maintenant. Ce n'est pas ma façon d'appréhender les choses. Par contre, au Concile Vatican II, il y a eu ce fameux texte Sacrosanctum Concilium, donc sur la liturgie, qui a remis en place un certain nombre de choses. Et pour moi, un des éléments très importants, c'est la participation active. Aujourd'hui, il y a des choses que j'ai du mal à accepter. Ça veut dire quand quelqu'un me dit « Ah, je vais assister à votre messe, monsieur le curé. » Le mot « assister » est très malvenu. On n'assiste pas à la messe. Le concile nous a fait comprendre qu'on participe puisqu'on est acteur de la célébration. Et on ne va pas assister à votre messe, monsieur le curé, puisque ce n'est pas sa messe. Le prêtre n'est pas propriétaire de la messe, puisqu'il la célèbre avec nous. Nous sommes célébrants à la messe. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les dispositions, l'aménagement de nos églises, nous sommes toujours dans une disposition où le prêtre est dans le cœur et le peuple de Dieu, l'assemblée dans la nef. Autrement dit, il y a une rupture. Et on a l'impression que c'est le prêtre qui célèbre seul sa messe à l'autel. En fait, c'est tout le peuple de Dieu qui célèbre ensemble. D'où l'importance dans nos préparations. Comment allons-nous favoriser ce lien du prêtre qui est dans le cœur avec l'assemblée? Alors ce sera peut-être dans la mise en œuvre d'un certain nombre de processions, vous savez, de processions d'entrée où on marche derrière une croix et où on porte un bel évangéliaire. Ça donne à voir qu'il y a un peuple en marche qui, avec le prêtre, va célébrer la messe. Quand on fait une procession des offrandes, quand on apporte le pain et le vin, ah, cela dit bien que le pain et le vin, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes qui sont rassemblés et que nous allons offrir au Seigneur. Enfin, vous voyez, tout, et puis après, c'est tout dans l'art du chant, de la participation active. Mais c'est quelque chose de très, très important, cette notion de participation active. Nul n'est passif à la messe, même s'il est derrière un pilier, même s'il n'y voit pas, même s'il a l'impression qu'il ne fait rien, il est là et il prie. C'est par la prière qu'il est acteur de la célébration. Donc entendons bien qu'il n'y a pas que les gens qui sont chargés de faire chanter ou de lire ou de faire servant d'autel qui sont acteurs. C'est tout le peuple qui est acteur.
Comment fonctionne le service diocésain par rapport à cette pastorale?
Alors, donc, notre équipe se réunit une fois par mois. Une fois par mois, nous nous réunissons. Nous sommes donc une équipe diocésaine et nous sommes 12. Quel est l'objet de notre travail? Voilà. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les choses faciles, organiser un calendrier de formation pour l'année qui suit. Ça, c'est bon. Mais ce qui nous habite aussi beaucoup, c'est travailler des questions de fond. Par exemple, il y a quelques années, on a réalisé tout un dossier à propos de la crémation. Et notamment, peut-on accueillir des temps de prière dans un crématorium? Nous avons fait aussi tout un dossier, tout un travail sur le dimanche. La question qui est derrière, c'est comment célébrer le dimanche si malheureusement nous n'avons pas l'Eucharistie et donc la prière dominicale. Nous avons ensuite, on avait fait aussi il y a quelques années tout un long travail sur l'art de célébrer, donc c'était un document qui présentait les différents moments de la messe, qui les expliquait, puis qui donnait aussi des idées pour mettre en valeur. On avait produit aussi des orientations diocésaines quant à la pastorale des funérailles, ça remonte à 2003 ou 2004. Nous avons fait aussi un document sur les orientations diocésaines quant à la pastorale du baptême. Vous voyez, notre travail, il est dans une réflexion de fond, dans des outils. Il est donc, je l'ai dit, dans de la formation concrète. Il est aussi dans la préparation des grandes célébrations diocésaines. Vous savez, l'accueil de Monseigneur Souchu à la cathédrale de Dax, la messe a été préparée par l'équipe diocésaine. De même, les ordinations de Monseigneur Breton aux arènes, Pentecôte 2000, ça c'est beaucoup plus ancien, toutes les grandes manifestations diocésaines, les messes chrismales, les ordinations, toutes ces célébrations, oui, c'est l'équipe diocésaine qui les prépare, en lien bien sûr avec les personnes concernées. On ne travaille pas tout seul. Mais ça représente beaucoup de choses. Dès qu'il y a un rassemblement diocésain qui peut être à Buglose pour les journées mariales par exemple, eh bien la messe de clôture du dimanche va être aussi préparée par le service diocésain de pastorale liturgique sacramentelle. Ce qui est important nous dans notre fonctionnement, c'est que nous travaillons ensemble, que ce soit la commission fleurir en liturgie, la commission musique liturgique et la commission PLS. Nous avons cette chance et ce bonheur de travailler ensemble et donc quand on prépare une grande célébration, c'est plus facile. Ceux qui auront à fleurir la cathédrale ou l'espace dans lequel sera célébrée une messe comprendra mieux et plus facilement ce qu'on attend d'elle puisqu'elle aura entendu aussi la réflexion des gens qui sont chargés de la liturgie, et aussi même chose pour la partie musique liturgique, tout le monde pourra bien travailler, enfin oui, fonctionner.
Je suppose que beaucoup de laïcs sont invités à participer à ces réflexions.
Attention, une équipe, c'est une équipe. L'équipe a sa propre réflexion. Ensuite, notre réflexion, donc, elle est transmise, que ce soit à l'évêque, c'est une équipe diocésaine. Ensuite, dans le cadre des formations que nous proposons, eh bien, c'est un lieu où les laïcs qui viennent à ces formations entendent aussi des choses. Ça se passe comme ça. Enfin, c'est... Dans l'équipe diocésaine, il y a deux prêtres, l'abbé Brette et moi-même. La pastorale liturgique et sacramentelle est au cœur de l'évangélisation. Nous voyons bien que pour annoncer Jésus-Christ, ça se vit à l'occasion, dans le cadre de la catéchèse, à l'occasion de la préparation des baptêmes des petits-enfants ou d'adultes, le catéchuménat, que ce soit pour des préparations d'obsèques. Tous ces lieux où vivent les gens, la pastorale liturgique et sacramentelle les rejoint. Et la pastorale liturgique et sacramentelle, justement, les rejoint pour leur dire « Mais ce que vous vivez dans votre quête, dans votre recherche de Jésus, de Dieu, de la foi, mais aussi dans ces moments douloureux que sont des funérailles, mais aussi dans ces moments joyeux que sont des baptêmes ou des mariages, la pastorale liturgique a des choses à vous proposer pour les vivre, pour justement déployer cette rencontre avec le Seigneur. La liturgie est au cœur de l'évangélisation et je me dis aujourd'hui, ma question c'est qui dans nos paroisses porte ce souci? Qui est formé pour réfléchir à comment proposer sur notre paroisse des sacrements, par exemple? Qui est formé pour aujourd'hui, tiens, se dire on va proposer avec des enfants du caté une petite célébration, pour une petite, une grande, c'est une célébration qui ne sera pas une messe. Qui est formé pour bâtir ce genre de célébration? Et pourtant, ces célébrations sont indispensables. Elles sont le lieu où l'on va célébrer le Christ, où l'on va célébrer celui que l'on essaie de découvrir un peu plus. Depuis 1980, existe à Bayonne, la première semaine ou la deuxième semaine de juillet, une session liturgique. Au départ, ce sont les pères Jean Ameslan, un prêtre landais que nous avons tous bien connu, et le père André Duplex, qui est du diocèse de Bayonne, qui ont été les initiateurs de cette session liturgique. Cette session avait pour préoccupation de former des organistes et des organistes liturgiques, parce que l'accompagnement du chant dans une messe n'a rien à voir avec jouer de l'orgue pour un concert. Donc ces sessions ont été mises en place en 1980, et petit à petit, aux musiciens qui venaient d'abord pour jouer de l'orgue, d'autres sont venus pour jouer de la guitare ou du violon, de différents instruments, et puis sont venus aussi des personnes qui venaient pour apprendre à animer des assemblées, animer les chants, être animateurs liturgiques, des chefs de chorale, et petit à petit, c'est vrai que ces sessions, d'année en année, ont pris une grande importance. Il y a eu jusqu'à 80 ou 100 participants. Ces sessions ont produit des fruits. Moi, je connais aujourd'hui des organistes qui sont passés par la session de Bayonne, et je félicite le père Ameslan, le père Duplex, pour le travail qu'ils avaient fait déjà il y a quelques années. Depuis maintenant 3 ans, cette session de Bayonne, cette session liturgique de Bayonne, a pris un nouveau tournant. Ça veut dire que ne sont plus invités à cette session les personnes qui jouent de la musique, organistes, guitare, etc., ni seulement les personnes qui sont chefs de chorale ou bien qui sont animateurs de liturgie, etc., mais sont aussi invités à cette session des personnes qui participent dans leur diocèse, dans leur paroisse, à la préparation des baptêmes, des mariages, à l'accompagnement des enfants en catéchèse, en aumônerie de jeunes. En fait, cette session s'ouvre aussi aux personnes chargées du fleurissement liturgique des églises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette session essaie de proposer à des gens qui ont des compétences très différentes, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la liturgie, que ce soit dans le fleurissement. Cette session essaie de proposer à ces gens-là d'abord un tronc commun de formation et ensuite de se spécialiser justement dans ce qu'ils viennent approfondir. Alors si je fais un peu d'histoire, la première année on avait travaillé sur l'Eucharistie et c'était très intéressant de voir comment la célébration eucharistique a été travaillée par les personnes qui étaient chargées du fleurissement, qui elles ont appris à fleurir, que ce soit l'autel, tantôt l'ambon, différents lieux, mais de voir aussi tiens, comment le chant liturgique a toute sa place dans la célébration eucharistique, et puis de réfléchir aussi tiens, à ce qu'on appelle l'art de célébrer, la manière de mettre en œuvre, de déployer la célébration eucharistique, et donc c'était là le travail un petit peu de formation pour des équipes liturgiques. Il y a eu ensuite, sur une deuxième année, un autre thème intitulé « Les sacrements de l'initiation chrétienne ». Et là, pendant toute une semaine, nous avons particulièrement travaillé sur les sacrements du baptême et de la confirmation. Oui, on n'a pas repris l'Eucharistie puisqu'on avait travaillé lors de l'année précédente. Ce qui était important, c'est de travailler sur ces sacrements. D'abord, que nous dit l'Église de ces sacrements? Comment nous sont-ils présentés dans les rituels? Et puis, quelle mise en œuvre? Alors, quand on dit quelle mise en œuvre, on dit aussi, tiens, quelle préparation? Et il est intéressant de voir aujourd'hui comment dans nos paroisses, on essaie de mettre en œuvre des itinéraires de type catéchuménal pour l'initiation, justement, au sacrement. La particularité d'un tel itinéraire, c'est que il ne s'agit pas de préparer, comme on dit intellectuellement ou même uniquement spirituellement, un sacrement, mais il s'agit d'inscrire tout au long de ce chemin, de cet itinéraire vers le sacrement, d'inscrire des étapes. Donc, première année, on avait dit l'Eucharistie, la deuxième année, les sacrements de l'initiation chrétienne. Et pour la troisième année, c'est-à-dire cette année, au mois de juillet prochain, nous avons retenu comme thème la liturgie en dehors de la messe. En fait, ce qu'on voudrait déployer fortement, c'est la célébrer la parole. Comment la parole de Dieu est au cœur de toute célébration. De travailler, que ce soit sur l'art de proclamer la parole de Dieu, l'art de mettre en œuvre un texte, de travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un lectionnaire, mais c'est aussi l'occasion de se dire, mais tiens, comment la prière des psaumes, la liturgie des heures, est aussi une prière. Je répète, la liturgie ne concerne pas uniquement les sacrements, elle concerne toutes les formes de prière, et dans toute forme de prière, il y a la parole de Dieu. Et dans la liturgie des heures, la parole de Dieu est abordée de façon tout à fait particulière. Et puis on s'aperçoit aussi aujourd'hui que de plus en plus, nous avons des demandes de prière, que ce soit dans un crématorium, que ce soit dans un funérarium. On a des demandes de prière particulières. Tiens, hier, quelqu'un me disait, voilà, une situation complètement curieuse. Quelqu'un me disait, voilà, j'ai une amie qui fait baptiser son enfant. Ah, c'est bien. Oui, oui, mais elle me dit, mais c'est pas le baptême à l'église, c'est un baptême républicain. Ils vont aller à la mairie. Ah bon? Et puis elle me dit, mon amie voudrait qu'on passe à l'église, parce que bon, son mari ne veut pas que l'enfant soit baptisé chrétiennement, mais elle voudrait quand même passer à l'église, qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme toutes les portes ou on propose, justement, un temps de prière à l'église pour ceux qui veulent? Ce qui est important pour cette maman, c'est que son enfant, qu'elle aime beaucoup, soit aussi reconnu et aimé de Dieu. Elle veut le présenter à Dieu. Alors ce ne sera pas un baptême, ce sera un temps de prière avec un texte de la parole de Dieu. Le texte « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Jésus, il les embrassait, il les bénissait. Il ne leur demandait pas s'ils étaient baptisés, il les accueillait. Eh bien, je crois que voilà, des formes nouvelles de prière sont là. Alors, il y aura aussi abordé au cours de la session la question des dévotions populaires. Vous savez, que ce soit des bénédictions. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, on a assisté à une époque à un refus de bénir. On disait que bénir, c'était faire de la magie. Mais non, c'est pas vrai. je crois très important, une bénédiction de médaille ou de croix ou de chapelet, je crois très important quand des parents me disent, tiens, vous pouvez venir bénir la maison, c'est très important. Bénir, ça veut dire dire du bien, Dieu dit du bien. Et quand on nous demande une bénédiction, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu sa présence, qui nous accompagne. On n'est pas dans la magie, on est dans un premier pas vers la foi. Et donc au cours de cette session, on va aussi essayer d'aborder cette question et de se dire, tiens, comment ? On a beaucoup, il y a dans les Landes, par exemple, un nombre incalculable de fontaines dites miraculeuses. Ce sont des lieux où des gens vont se recueillir, demander on ne sait pas quoi. Eh bien, comment aider, comment favoriser une prière dans ces lieux-là, par exemple, la dévotion populaire. Enfin, voilà. Donc, cette année, la session est axée principalement sur la parole, célébrer la parole. Comment la parole de Dieu, bien voilà, éclaire nos temps de prière, et puis comment aussi bâtir ces fameux temps de prière en dehors de l'Eucharistie. Alors, pour être clair, cette session, bien sûr, est toujours organisée avec trois spécialités, comme on dit, la musique liturgique, la liturgie proprement dite, et le fleurissement liturgique. C'est toute personne désireuse de se former à la musique liturgique ou au fleurissement. Alors quand je dis musique, c'est la formation aux instruments. Pour d'autres, ce sera la formation à la direction de chant, que ce soit en chorale, que ce soit à l'animation de chant dans une assemblée. Ensuite, fleurir en liturgie, c'est ça, ce sont les techniques pour composer un bouquet liturgique. C'est passionnant, c'est intéressant. Et la question liturgique, donc ce sera pour travailler sur des célébrations non sacramentelles, comment les bâtir, et puis ensuite, comment les mettre en œuvre. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, nous manquons de formation liturgique, et c'est quand même, c'est dommage. Alors, je me permets d'insister pour vous dire, mais oui, venez. Venez vous former. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas répondre à toutes vos questions en 8 jours, mais on va commencer un chemin. Moi, ça fait maintenant presque 18 ans que je suis responsable de ce service liturgique. Je n'arrête pas de continuer à découvrir des choses. Alors, c'est normal que si vous commencez, vous ayez envie d'en connaître un peu plus, mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et on se découvre après une grande passion pour la liturgie, qui est vraiment quelque chose de très important dans notre vie chrétienne.
Je vous remercie beaucoup, Père de Roda, de nous avoir reçus. Et je suppose que nos auditeurs se seront bien enrichis d'une nouvelle connaissance grâce à vous.
Merci de nous donner la parole. Et bonne continuation dans votre bel ouvrage de la web radio.